voici une grosse chouquette. En effet, ce commentaire est plus long de quelques minutes par rapport aux commentaires habituels, mais comme nous sommes en carême et bien déterminés, je suis sûr que nous allons faire un petit effort et arriver au bout. Et puis, ça reste une délicieuse chouquette, alors allons-y. Mercredi dernier, nous entendions Jésus dire dans l'évangile lu à la messe, « Celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. » Nous trouvons cela en Matthieu chapitre 5. Curieusement, l'évangile lu à la messe ce dimanche rapporte que Jésus a préparé de la boue en crachant dans la poussière et l'a appliquée sur les yeux d'un aveugle qui a guéri après s'être lavé dans une piscine, tout ça un jour de Shabbat, pendant lequel la loi interdit tout travail. Puisque je donne un certain crédit à Jésus, j'en déduis que fabriquer de la boue comme ça, ce n'est pas rejeter un commandement et que Jésus n'enfreint pas la règle qui interdit de travailler lors du Shabbat. D'un autre point de vue, il n'était sans doute pas indispensable au Créateur du monde de procéder de cette façon pour ouvrir les yeux de l'aveugle, lui qui peut guérir à distance le fils d'un dignitaire royal, par exemple, comme on lit en Jean chapitre 4 à la messe lundi dernier. Et pourtant, c'est ainsi que Jésus s'y prend. Il fabrique de la boue. Là est le point que souligne d'ailleurs l'Évangile. Je lis, « Donc on l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de Shabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. » Le pharisaïsme est un mouvement né 150 ans environ avant Jésus, en réaction à l'hellénisation de la société juive, ainsi qu'en opposition à une récupération politique de la gestion du temple de Jérusalem. Les pharisiens qui s'opposaient alors aux dérives politiques de la religion furent l'objet d'une effroyable répression. 100 ans avant Jésus, le roi de Judée, Alexandre Jannée, en fit crucifier 800 le même jour, selon Flavius Joseph, ajoutant à leur supplice certaines cruautés que l'on s'épargnera d'évoquer ici pour conserver un bon sommeil, oui. La femme d'Alexandre Jannée, devenue reine de Judée à la mort de son terrible époux, comprit qu'une alliance avec les pharisiens serait plus profitable qu'une hostilité continuelle, et ceux-ci finirent par se rapprocher du pouvoir jusqu'à se voir confier l'éducation du peuple dans les synagogues, ainsi que l'exercice de la justice courante. Ne pouvant pas prétendre au service du temple, pour lequel il faut appartenir à une lignée sacerdotale, celle des Lévites, des descendants d'Aaron et de Sadoc, que défendent les Sadducéens, vous voyez, ne pouvant pas non plus participer au pouvoir politique direct détenu par les lignées royales, les pharisiens affirment leur poids dans la société en tant que garants de la pureté rituelle et de la conformité à la loi, à quoi ils ajoutent le respect de, entre guillemets, la tradition des anciens, une loi orale transmise selon eux à travers des siècles par des pratiques ininterrompues depuis Moïse et lisible aussi, toujours selon eux, entre les lignes de la Torah. Proche du peuple, il dispose de sa confiance dans la mesure où ce parti des pharisiens figure un troisième pouvoir distinct du pouvoir royal et des élites religieuses. Cependant, cette situation politique et sociale sécurisée ne leur est garantie que tant qu'ils se montrent indispensables en tant que gardiens de toutes ces traditions et usages qui attachent le peuple au temple grâce aux liens religieux. C'est par ce moyen qu'ils se rendent utiles à la caste politique, qu'il s'agisse des Hérodiens ou des Asmonéens, tandis qu'ils ne pourront jamais intégrer les sphères des Sadducéens, partisans des prêtres descendants de Sadoc, même si les princes Asmonéens ont rompu à plusieurs reprises la succession sacerdotale en plaçant au temple les grands prêtres qu'ils choisissaient eux-mêmes. Pharisiens, Sadducéens, Asmonéens, Hérodiens, ça commence à faire du monde. Ajoutez-y les Davidiques, les Zélotes, les Sicaires, les Samaritains, dont on parlait la semaine dernière, et les membres du Yahad, que l'on appelle par ailleurs les Esséniens, les Publicains, la solde de l'envahisseur romain, tout ce monde hyperactif, le plus souvent brutal et intransigeant, et vous aurez une idée des conditions dans lesquelles Jésus annonçait la venue du royaume de Dieu. Et puis voilà qu'un jour de Shabbat, devant les pharisiens horripilés, devant les sadducéens angoissés parce que compromis avec les hérodiens, eux-mêmes aux ordres des romains qui exigent d'eux qu'ils maintiennent la paix civile, à la grande excitation des zélotes et des sicaires qui voient là un acte de rébellion, au dégoût des esséniens qui légifèrent furieusement au sujet des fluides corporels, le Fils de Dieu crache par terre et fabrique de la boue avec la poussière. Maintenant que l'on a le contexte, le geste apparemment anodin accompli, en plus, en sortant du temple, prend un certain relief, n'est-ce pas ? Jésus n'a pas pour but de provoquer les pharisiens en crachant par terre. Son intention n'est même pas de faire bouger les lignes pour un parti qui aurait ses faveurs plutôt qu'un autre. L'enjeu de ce geste, c'est d'abord les brebis perdues de la maison d'Israël, vers qui il a été envoyé, soumises au poids insupportable de toutes ses prescriptions, alors que le fardeau de Dieu est pourtant léger. Et, parmi ces brebis, sont davantage en danger celles qui commencent à croire en sa parole, menacées de payer très cher leur conversion, puisqu'elles vont être jetées hors des assemblées qu'elles fréquentaient. À l'adresse de tous ces partis qui s'affrontent, Jésus semble dire « Demandez-vous donc qui je suis, moi qui transgresse une de vos traditions des anciens, sans être foudroyé par Dieu, mais qui au contraire est capable de donner la vue à un aveugle de naissance ?» Concernant maintenant ceux qui croient en lui, comme un bon pasteur, Jésus prend soin de ses nouvelles brebis que les meutes de loups pourraient bien déchirer. Pour employer une autre métaphore, au milieu de ce champ de bataille où chacun défend ses possessions de façon acharnée, les nouveaux convertis risqueraient bien, sous la menace d'être jetés dehors par la communauté, de renoncer à leur conversion. Être éjecté, c'est d'ailleurs ce qui est arrivé à l'aveugle guéri. Nous lisons « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ?» le secouent les pharisiens, et ils le jetèrent dehors. C'est parce qu'il s'est fait jeter dehors que Jésus le recherche activement pour lui parler. Relisons aussi ce passage. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva, entre parenthèses, ce qui veut dire qu'il l'a recherché. Le berger prend soin de ses brebis. Il le retrouva donc et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit « Je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. » En voilà déjà un de gagné. Et la justice a été manifestée avec un peu de salive et de poussière.